À Détroit, elle est née dans la communauté noire d'une ville dévastée par la crise de l'industrie automobile, une communauté en difficulté et très concernée par la lutte pour les droits civiques. Et beaucoup d'artistes, en particulier ceux du label Underground Resistance, se sont situés dans la lignée des engagements militants des artistes de la Motown, ce label de Soul, et dans la lignée donc des engagements d'artistes comme Marvin Gaye et Stevie Wonder, qui se sont politisés à la fin des années 60, après les émeutes qui ont suivi les assassinats de Martin Luther King et de Malcolm X. Et de façon plus contemporaine, ces artistes d'Underground Resistance se sont inspirés de la posture militante du groupe de rap Public Enemy, qui critiquait l'establishment blanc des années Reagan. Alors évidemment, ça paraît étrange d'ici, puisque la techno est une musique muette, mais le message passé...
Muette ?
Ben, c'est une musique muette, puisqu'une musique instrumentale.
Oui, deux notes, le maximum de volume.
Je vous invite
à... Quelques cachets d'ecstasy et...
Je vous invite à en écouter, mais...
Ah oui, j'en ai écouté.
mais effectivement, c'est une musique qui ne parle pas, il n'y a pas de parole. Mais le message passé via les titres des morceaux, les pochettes des disques, les discours des artistes, donc soit en interview, soit directement gravé en toutes lettres sur les vinyles de ces années-là. C'est amusant, vous avez des vinyles avec une face A avec de la musique, la face B a été gravée, on a l'impression que c'est gravé au stylet. Ils essayent de faire passer leur message de façon plus claire.
Quel message ?
Eh bien, ce sont des messages d'égalité entre les races, des messages où ils s'en prennent au capitalisme, au fonctionnement de la société américaine des années 80.
Et ça continue aujourd'hui ?
Oui, ça continue aujourd'hui. La techno a une cousine qui s'appelle la house, qui est plus proche de la disco, qui est apparue à Chicago à la même époque. Là encore, dans la communauté noire, mais homosexuelle. Là, les revendications sont un peu différentes. Et elles sont plus explicites, puisque les premiers tubes du genre étaient chantés. Et ils évoquaient clairement un monde où chacun vivrait en harmonie, sans distinction de couleur, de religion, de genre ou de préférence sexuelle. Là, on a effectivement un message plus clair. Mais la techno et la house ont beaucoup voyagé, puisqu'elles sont nées aux États-Unis où elles sont restées confidentielles. Elles ont explosé quand elles sont arrivées en Europe, et en particulier en Angleterre, à la fin des années 80. Effectivement, vous parliez de l'ecstasy tout à l'heure. Ce qui a fait exploser le phénomène, c'est qu'elle est arrivée en même temps que cette drogue qui procure euphorie, empathie et hypersensibilité à la musique. Et la conjonction de cette...
Et c'est très mal, n'en prenez pas. Je m'adresse aux auditeurs.
je prendrai pas parti. Et la conjonction de cette musique répétitive qui induit une transe et de cette nouvelle drogue a provoqué dans les fêtes la création d'une bulle de lâcher prise, un terrain de jeu hors du temps, où les gens ont vécu l'expérience d'un univers où tous les milieux sociaux se mélangeaient. C'est-à-dire que toutes les tribus se sont donné rendez-vous dans ces fêtes. Les rockers, les rastas, les homosexuels, même les hooligans qu'on voyait débarquer là-dedans, ils se sont tous retrouvés à faire la fête ensemble. Et non pas à faire la fête en regardant comme dans un concert de rock, en regardant la scène, mais à faire la fête tourner les uns vers les autres. Et pas comme dans un concert, ça dure pas 2 heures. Une fête techno, ça peut durer 10, 12, 15 heures, ça dure très longtemps. Donc on a vraiment le temps de faire connaissance et de vivre ensemble et de faire la fête avec des gens qu'on n'aurait jamais vus autrement.
Vu, mais on ne peut pas parler du tout.
Si, on peut parler. C'est-à-dire qu'il y a des espaces dans la fête techno où il y a de la musique forte et d'autres espaces qui sont prévus pour la discussion, qui sont tranquilles. Où les gens...
C'est quand on rentre à la maison le lendemain qu'on peut...
Pas du tout. Ça a même un nom, ça s'appelait des chill-out. C'est-à-dire des endroits où on peut se poser pour discuter au calme et faire vraiment connaissance. Et donc les gens se sont dit, tiens, c'est un monde où tout d'un coup, tout le monde peut se rencontrer. Et si ça préfigurait un monde meilleur, on a parlé d'un Éden, c'était un mot qui revenait souvent. Et cet Éden, en fait, a pris une autre forme dans les autres pays d'Europe ou du monde qui ont été gagnés par cette musique successivement. En Allemagne, ça a été la bande-son de la réunification, puisque en particulier à Berlin, c'est l'endroit où les jeunesses de l'Est et de l'Ouest se sont rencontrées. C'est le premier endroit où les Allemands de l'Est et de l'Ouest, en fait, ont appris à vivre ensemble et ont fait connaissance. Ensuite, elle a gagné l'Inde, à Goa, où c'est une musique qui a eu du succès dans la communauté hippie qui vivait depuis les années 60. Ça a donné une connotation internationaliste au message de cette fête. Et puis ensuite, il y a l'exemple de la France, qui est un peu particulier, puisque la France a très vite été confrontée à la répression, ce qui a obligé donc la scène à se réfugier loin des villes, dans les campagnes, dans les friches industrielles, où elle a été confrontée aux forces de l'ordre, aux autorités qui empêchaient en fait la fête d'avoir lieu. Et donc ils se sont réfugiés dans le secret et se sont mis à plus travailler du tout dans le système, à être en autogestion. Et petit à petit, ils ont théorisé leur posture. Ils se sont dit, mais oui, effectivement, nous sommes des anarchistes, nous vivons dans une zone d'autonomie temporaire. Et ça, c'est un concept qui avait été développé par Hakim Bey, un sociologue américain, pour parler des utopies pirates du XVIIIe siècle. Et ils ont récupéré ce concept-là, et donc ils ont fini par avoir une vision politique de la fête, ce qui était finalement assez intéressant.